Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. C'est peut-être un animal qui ne vous inspire rien de bon, un oiseau de mauvais augure qui fut pourtant célébré par les mythologies des peuples celtes, germains et scandinaves, mais dans la Bible et dans la chrétienté, cet oiseau est devenu un être maléfique, une créature du diable, le corbeau dévalué dans les fables ou dans notre langue, le corbeau et le renard de La Fontaine, le corbeau qui dénonce à coups de lettres et de coups de fil anonymes, comme dans le film éponyme d'Henri-Georges Clouzot, mais vous le verrez, la légende noire du corbeau commence à laisser la place à un regard beaucoup plus positif. De plus en plus de recherches scientifiques montrent que cet oiseau est doté de certaines compétences cognitives comparables à celles d'un enfant de 4 ans ou d'un chimpanzé. Il est vrai qu'observer un corbeau peut devenir un spectacle fascinant. Pour nous aider à retracer l'histoire de cet oiseau passionnant qui en dit beaucoup sur nos sociétés, nous recevons le grand historien Michel Pastoureau et l'éthologue Agatha Liévin-Bazin. Que vous inspirent les corbeilles et autres corneilles? Vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Quel est le menu de ma vie de parent vers 11h20?
Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé d'en finir avec la dictature du hamster et de déculpabiliser tous ces parents qui ont refusé de prendre un animal chez eux.
Et je sais que vous êtes fan de Michel Pastoureau.
Ah oui, je suis tellement contente de le rencontrer aujourd'hui.
Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans Grand Bien vous fasse. Votre érudition fait du bien à notre intelligence. Vous êtes un historien reconnu des couleurs et des animaux. Alors après le loup et le taureau, vous publiez au Seuil un beau livre richement illustré, Le Corbeau, une histoire culturelle, avec en couverture Hitchcock et un corbeau assez peu rassurant. Alors on y reviendra longuement au cours de cette émission, mais vous n'avez pas choisi le plus aimable animal du bestiaire. Hein, sur Internet, le succès est davantage garanti avec des vidéos de chatons qu'avec des vidéos de petits corbeaux. Hein.
Oui, pour l'historien, c'est quand même un oiseau fascinant parce que les documents qui en parlent sont abondants, en tout cas pour non seulement l'Europe, mais tout l'hémisphère nord. Textes, images, traditions orales, documents archéologiques, et ainsi de suite. Et puis, cette mauvaise réputation qui s'attache à cet oiseau est datée. Elle date de l'apparition du christianisme en Europe, auparavant, dans les sociétés les plus anciennes, païennes, pour prendre un mot commode. C'est un oiseau vénéré par presque tous les peuples, au moins de l'Europe du Nord, les Celtes, les Germains, les Slaves. On a beaucoup de témoignages écrits, mais avant il y a des traditions orales. Donc il y a beaucoup à dire sur le corbeau. C'est vraiment une des vedettes du bestiaire de l'historien.
Alors vous nous proposez une histoire culturelle. Quel est l'objet de cette histoire culturelle dont vous êtes l'un des plus grands représentants ?
Oui, l'histoire culturelle, ça n'est pas l'histoire naturelle, évidemment. C'est une histoire qui s'attache à étudier les traditions, les légendes, les mythes, les représentations collectives d'animaux, de végétaux, de couleurs, d'autres choses encore. C'est au fond une sorte d'histoire sociale, ça englobe beaucoup de choses, y compris l'effet de langue et de lexique. Ça évolue bien sûr au fil des siècles, mais plus lentement que l'histoire événementielle en quelque sorte. Pour l'historien qui pratique l'histoire culturelle, l'histoire naturelle, ça n'est qu'une branche de l'histoire culturelle, puisque l'histoire naturelle, comme toutes les formes d'histoire des sciences, ça évolue aussi, ça change, les savoirs ne sont pas immobiles, je peux dire que l'histoire naturelle fait partie de l'histoire culturelle, donc j'étais conduit à m'y intéresser aussi.
Une vingtaine d'espèces jouent un rôle de premier plan dans l'histoire culturelle européenne. Quelle est la place du corbeau dans ce bestiaire ?
Oui, avec François Boplin du Muséum d'Histoire Naturelle, il y a déjà pas mal de temps, on avait défini l'idée que dans beaucoup de sociétés, il existait ce que François Poplin a appelé un bestiaire central, c'est-à-dire un petit nombre d'espèces animales qui jouent, sur le plan symbolique et de l'imaginaire, un rôle plus important que les autres, et cela depuis des époques très très anciennes, et que ces espèces en plus nouent entre elles des relations qui forment système, pourrait-on dire. Et alors en Europe, il y a une douzaine d'espèces qui semblent plus importantes que les autres, et puis au sein de ces espèces, il y a un trio de têtes, l'ours, le loup et le corbeau. Ce sont vraiment les trois vedettes de l'imaginaire européen. Les autres viennent ensuite, les animaux domestiques après les sauvages. Mais même quand on s'intéresse, je ne sais pas, à l'aigle par exemple, au cygne, au cerf, au sanglier, c'est très important, mais ours, loup, corbeau, ce sont vraiment les trois vedettes.
Michel Pastoureau, dans votre livre, vous racontez l'importance du corbeau chez les Celtes, les Germains, les Slaves, la haine du christianisme, la place du corbeau dans les fables, les contes et la poésie, et sa revanche, grâce à la recherche scientifique, il s'agit l'un des animaux les plus intelligents, nous y reviendrons largement ce matin, vous racontez la longue ambivalence autour du corbeau, ambivalence que l'on retrouve également dans l'histoire des couleurs.
Oui, rien n'est jamais, comment dirais-je, d'une seule signification. Presque tout a ses bons et ses mauvais aspects pour l'histoire symbolique. C'est vrai des couleurs, c'est vrai des végétaux, c'est vrai aussi des animaux. Et le corbeau qui a tant et tant fait peur dans les campagnes européennes, charognard, mortifère, rusé, etc., etc., a aussi ses bons aspects. Et c'est toujours autour de son intelligence, pour prendre un mot commode, ses capacités mémorielles, sa sagacité, son don d'observation, et ainsi de suite. Donc il n'est pas totalement négatif. Et aujourd'hui, on entre là dans un domaine où mes compétences sont de deuxième ou troisième main, je lis les travaux des ornithologues et des éthologues, il prend sa revanche puisqu'il apparaît comme une des créatures animales les plus intelligentes, sinon la plus intelligente, ce que disait déjà un certain nombre d'auteurs de l'Antiquité.
Pline l'Ancien.
Pline l'Ancien qui voue une sorte de culte au corbeau et qui nous explique que parmi tous les oiseaux dont on se sert pour la divination, c'est le seul qui comprenne les présages qu'il transmet aux humains.
Alors précisons, Michel Pastoureau, que dans votre livre, vous vous intéressez surtout à la symbolique du grand corbeau en Occident.
Oui, pour l'histoire culturelle, évidemment, on manie des archétypes, donc on ne distingue pas, comme aujourd'hui dans nos savoirs ornithologiques, corbeau, corneille, chouka et autres corvidés. On prend l'espèce corbeau dans un sens très très large, et pour l'histoire culturelle, l'idée qu'il y a des corbeaux femelles et des corneilles mâles, ça fait bizarre. Il est évident que pour un certain nombre d'auteurs anciens, la corneille c'est la femelle du corbeau, ça ferait hurler un ornithologue aujourd'hui, mais il faut étudier les documents anciens, d'abord à l'aune des savoirs anciens, avant de projeter nos savoirs d'aujourd'hui. Sinon, on dit des bêtises.
Bonjour Agathe Liévin-Bazin.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes docteur en éthologie, spécialiste du comportement animal, vulgarisatrice scientifique, blogueuse sous le nom d'Agatha Magpie. Alors, à quelle espèce appartient le corbeau ? Sous le terme corbeau, on retrouve plusieurs espèces du genre Corvus, c'est ça ?
Alors oui, exactement. C'est vrai que en France métropolitaine, souvent, sous le terme corbeau, on mélange plusieurs espèces qui n'ont pas forcément les mêmes modes de vie. Souvent, on appelle corbeau les corneilles noires. Celles qu'on trouve dans les parcs parisiens sont des corneilles noires, qui sont de taille bien modeste par rapport au grand corbeau, Corvus corax, qui est un géant. C'est le plus grand avec une espèce africaine. C'est un oiseau qui fait 1,50 m d'envergure, un grand corbeau.
1,50 m.
Ouais, c'est vraiment un très grand oiseau. Et il a été longtemps chassé. Aujourd'hui, il est protégé, mais c'est vrai qu'on le trouve maintenant sur des zones un peu plus reculées. Il est en falaise, en montagne, etc. Donc, en centre-ville, ça ne pourra pas être un grand corbeau, ça c'est sûr. Et là où c'est un poil plus compliqué, c'est que la corneille noire ressemble beaucoup, en taille en tout cas, au corbeau freux. Donc il y a deux corbeaux en France, il y a le grand corbeau et le corbeau freux. Mais le corbeau freux, en fait, vit en très grande colonie, ce qui pose souvent quelques soucis de cohabitation en ville avec l'humain, parce que une colonie, une corbeautière, ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de caca. Donc les habitants à côté souvent s'en plaignent. Et le corbeau freux est plus végétarien. Il aime bien manger les graines et les semis dans les champs, donc il se fait pas non plus beaucoup d'amis de ce côté-là.
Alors quelles sont les principales caractéristiques du corbeau?
Alors, il faut voir sur quelle espèce on part, mais il y a
certains... Le grand corbeau.
Le grand corbeau. Eh bien, en fait, globalement, chez les corvidés et encore plus chez les grands corbeaux, ce qui est assez impressionnant, c'est leur vie sociale, les interactions qu'ils créent entre eux. Ce sont des animaux qui sont monogames, qui se mettent en couple habituellement pour la vie. Et ce sont des animaux qui vivent longtemps. On estime qu'un grand corbeau, en nature, il peut vivre 20 ans. Et en captivité, les sources disent de 40 à 80 ans. Donc, ce sont des animaux qui ont des vies riches, où ils ont le temps d'expérimenter plein de choses. Ils ont une mémoire incroyable. On sait qu'ils peuvent se souvenir de cris de congénères 2 ans après les avoir quittés pour la dernière fois. Ils peuvent mettre en place des stratégies pour cacher la nourriture, la retrouver. Enfin, ils sont des animaux assez incroyables.
On peut dire que leur intelligence, c'est l'une de leurs principales caractéristiques.
Oui, enfin, c'est vrai que intelligence, c'est un mot un peu compliqué, on met plein de
choses. Qu'est-ce que vous imitez, vous, derrière, vous, en tant qu'éthologue?
Alors, souvent, la définition un peu facile, entre guillemets, celle qu'on utilise, c'est cette histoire de flexibilité. Un animal intelligent, il va être capable de résoudre un problème qu'il n'a pas forcément rencontré plus tôt. Mais, disons qu'il est outillé, il est armé pour essayer de trouver une solution à un problème donné. Et avec les corbeaux, oui, on a pas mal ça. On a des stratégies, notamment, souvent les couples coopèrent toute l'année, c'est ça qui est assez fort, parce qu'ils restent ensemble même quand ils n'élèvent pas des petits. Et il y a souvent des vidéos assez incroyables où il y a un corbeau qui va aller titiller un prédateur pour aller lui piquer sa nourriture, et puis le partenaire de couple vient, enfin ils font des sortes d'embuscades comme ça, ils tentent des pièges pour récupérer de la nourriture, donc c'est souvent rigolo à regarder.
Les couples devraient s'inspirer des corbeaux, non?
Tout à fait, c'est une bonne suggestion.
Alors on reviendra tout à l'heure sur la capacité d'empathie des corbeaux. Michel Pastoureau, il existe des peuples qui ont éprouvé de l'empathie pour les corbeaux. Ce sont les Celtes, les Germains et les Scandinaves, des peuples qui ont vénéré le corbeau. Dans la mythologie scandinave, le corbeau est associé à Odin. Odin, je vous cite, le dieu borgne, magicien redoutable, maître de la vie et de la mort. Et Odin est accompagné de 2 corbeaux. Ugin, qui représente la pensée, et Munin, la mémoire.
Oui, ce sont ses attributs, ce sont ses compagnons. Dans beaucoup de mythologies anciennes, le corbeau est le messager des dieux, ou le compagnon des dieux. Parfois, il est démiurge, créateur du monde, il sait tout, il voit tout, il vient rapporter ce qu'il a vu ou entendu à telle ou telle divinité. Dans la mythologie grecque, c'est l'oiseau d'Apollon, c'est-à-dire la vedette du panthéon grec. Apollon, c'est le dieu le plus souvent cité et représenté, bien plus que Zeus. On trouve chez les Celtes aussi pas mal d'histoires de corbeaux, attributs du dieu Lug ou de telle ou telle déesse. Bref, il est partout, dans les mythologies anciennes et dans les religions antiques, dans l'hémisphère nord, et il est trop présent pour le christianisme à ses débuts, il est trop vénéré, on admire trop cet oiseau dont on fait un emblème, un attribut de roi, un attribut de chef, on le voit sur le casque des guerriers, sur les armures, sur les armes, il faut absolument faire descendre de son trône cet oiseau très inquiétant.
Chez les Grecs, le corbeau a d'abord été blanc.
Oui, c'est une légende qui apparaît assez tôt. On la rencontre d'ailleurs chez les Slaves et chez d'autres peuples plus orientaux. Dans la mythologie grecque, l'idée qui revient le plus souvent est liée à la légende de la belle Coronis, qui est une mortelle aimée du dieu d'Apollon. Mais Apollon se méfie de la fidélité ou de l'infidélité de la belle jeune femme. Alors, il la fait surveiller par un corbeau. Mais le corbeau s'est un peu assoupi ou a mal rempli son rôle. C'était un oiseau blanc dans les traditions anciennes. Et Coronis a été infidèle et a préféré au dieu un mortel, Ischis. fureur d'Apollon qui fait mettre à mort les deux amants et qui, pour punir l'oiseau, change son plumage qui était blanc et qui lui donne une nouvelle couleur. Le plumage devient noir. On a la même histoire, enfin une histoire voisine avec la corneille qui était l'oiseau d'Athéna à l'origine. Et cette corneille s'est mal comportée, a irrité la déesse, s'est montrée bavarde et mal élevée. Et Athéna l'a remplacée par la chouette. On a pas mal d'histoires de ce genre dans la mythologie grecque.
Alors dans la Rome antique, on admire la mémoire du corbeau, son intelligence, ses dons de prophétie. Les augures consultent le corbeau, hein.
Oui, on étudie son vol, on étudie son comportement devant la nourriture et surtout on étudie sa voix, ses cris, combien d'inflexions, on en distingue 50, 60, plus de 100, plus de 200. On cherche à les traduire en prophétie. C'est un oiseau bien observé, bien connu par rapport à ce que nous appelons les connaissances. C'est aussi un oiseau qui semble très bien nous connaître, nous, parce qu'il est toujours là, dans la vie des campagnes, même dans les villes antiques, à observer l'être humain. Et ça n'a pas changé. Hein. On a l'impression que c'est l'animal qui connaît le mieux l'être humain. Et les anciens le disaient déjà.
Alors, dans la Bible, le corbeau est un oiseau impie. Il faut remonter à l'arche de Noé pour comprendre la mauvaise réputation du corbeau dans la Bible. Hein.
Oui, c'est le second animal nommé par la Bible, le premier étant le serpent. Ce sont deux négatifs. Et alors, dans l'histoire de l'arche de Noé, au tout début de la Genèse, les eaux du déluge ont tout détruit. Noé cherche à savoir si elles se sont retirées, ces eaux dévastatrices. Et pour ce faire, il fait sortir un corbeau de l'arche, il l'envoie observer les eaux. Et au lieu de rapporter la bonne nouvelle à Noé, oui, les eaux sont en train de décroître, le corbeau préfère s'attarder à dévorer les cadavres qui flottent à la surface de l'eau. C'est pour ça que Noé a envoyé la colombe à sa place dans un deuxième temps. Et ce très court passage de la Bible a suffi pour en faire un oiseau de malheur, un oiseau abominable, charognard, qui n'apporte pas la bonne nouvelle, qui préfère égoïstement se repaître de charogne et de cadavre.
Les pères de l'Église vont contribuer à noircir la réputation du corbeau. Saint Augustin déteste le corbeau. Hein.
Oui, Saint Augustin a une très grande méfiance envers les animaux. On a l'impression qu'il en a peur. Et alors,
c'est pas Saint François d'Assise. Hein.
Non, c'est tout à fait le contraire. Alors, il a la phobie de l'ours, mais plus encore le corbeau. Vraiment, il déteste cet oiseau. Et dans le cri du corbeau, il croit entendre les deux syllabes. Crasse, crasse. Crasse en latin, c'est un adverbe qui veut dire demain. Donc le corbeau dirait demain, demain. Et Augustin, avec son imagination débordante, c'est magnifique, hein, la prose de saint Augustin, il explique qu'au fond, le corbeau, c'est l'homme pécheur qui reporte au lendemain, demain, demain, sa confession.
Donc la procrastination vient du corbeau.
Vient du mot crasse, oui, et assimilé à un corbeau.
Et à partir du 8e siècle, l'Église catholique fait la guerre au corbeau. Le corbeau devient l'oiseau du diable.
Oui, naturellement, le christianisme aime bien insister, surtout du côté du mal, donc charge la barque, si je puis dire, et on lui attribue un très grand nombre d'adjectifs négatifs. J'ai trouvé un texte tout à fait intéressant à cet égard. Nous sommes au 8e siècle, des missionnaires chrétiens vont évangéliser en Germanie profonde, chez les païens de Thuringe, de Saxe. Ils s'aperçoivent que ces peuples païens mangent des viandes épouvantables, que les chrétiens ne mangent pas. Et ils écrivent au pape pour dire « on peut pas tout interdire d'un coup, il y en a trop ». Qu'est-ce qui est prioritaire parmi ces animaux abjects que mangent les païens? Et le pape répond, surtout pas de corbeau, c'est le pire de tous.
Faisons un lien entre l'histoire et notre vie quotidienne, Agatha Liévin-Bazin. Nous sommes encore aujourd'hui les héritiers de cette vision très négative du corbeau, hein.
Alors, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de superstitions qui restent. C'est vrai que... à part certaines espèces, la majorité des corbeaux sont charognards. En fait, ils sont opportunistes. Donc, on parlait de flexibilité. Ce sont des animaux ultra flexibles, ils peuvent vivre à peu près partout. D'ailleurs, il y a des corvidés partout, sauf au pôle. Ils vivent dans tous les endroits, la ville, la campagne, et donc, ils peuvent aussi des fois manger de la viande. Alors que c'est une fonction très utile, hein, parce que s'il n'y avait pas de charognards, il y aurait des maladies qui se développeraient, donc le corbeau nous rend un fier service. Mais oui, encore aujourd'hui, régulièrement, même encore aujourd'hui, il y a des battues, par exemple, pour abattre les corbeaux freux en ville, quand ils font trop de tapage en ville. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il n'y a plus d'animaux nuisibles selon la loi, mais il y a des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Bon, pour les animaux, ça ne change pas grand-chose. Mais sur les 6 oiseaux, si je ne dis pas bêtise, qui sont classés dans cette catégorie, il y a 4 corvidés. Donc la pie, le freux, la corneille noire et le jet des chênes. Et ce sont des animaux qu'on peut abattre, piéger toute l'année. Et moi, je suis intimement convaincue que ça reste très lié à cette histoire négative que l'on a avec ces oiseaux depuis très longtemps.
Michel Pastoureau.
Oui, ça va même très loin. Moi, je lis les travaux des autres sur les capacités cognitives des animaux, et spécialement donc des corvidés aujourd'hui, et je m'aperçois qu'il y a certains ornithologues qui refusent d'admettre que le corbeau soit très intelligent, et on a, alors que leurs collègues soulignent à partir de toutes sortes d'expériences, oui, c'est un oiseau qui a des capacités énormes, mais on a l'impression que sa mauvaise réputation empêche même des savants, des scientifiques, de l'admettre. C'est un bagage lourd à porter.
Bonjour Heidi, bienvenue.
Bonjour.
Tu as 9 ans et je crois savoir que tu as recueilli un corbeau, c'est ça?
Oui.
Raconte-nous.
On était chez notre mamie, donc il est tombé de l'arbre. Mmh. Du coup, on l'a mis dans un carton et on est revenu chez moi. Mmh. Et après, on l'a mis dans une petite cage sous une couveuse. Mmh. On a pris un petit bol et on a mis des croquettes humidifiées avec de l'eau. Ouais. On a pris une pince parce qu'en fait, on avait regardé des vidéos et il disait que le corbeau, il allait ouvrir grand sa bouche et il fallait mettre les croquettes avec une pince dans son gosier très profond. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Mmh. Et après, il a commencé à grandir, donc on l'a mis dans une plus grande cage dehors, puisque c'était en été. Et du coup, après, il sortait de la cage tout seul et il faisait des allers-retours dans la maison et dehors.
Mais bravo Heidi d'avoir sauvé ce corbeau. Est-ce que tu as pris le temps d'observer ce corbeau et qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui a pu te fasciner chez cet oiseau?
Déjà, contrairement à ce qu'on croit, ils sont très intelligents, ils comprennent vite ce qu'on leur dit. Mmh.
Qu'est-ce que tu as observé, par exemple?
Quand, par exemple, parfois je le faisais monter sur mon épaule, je le montrais mon épaule, et je le prenais, il n'avait pas peur, il venait tranquille.
Mmh. Agatha Divin-Bazin.
Alors oui, en fait, les oiseaux, les gens n'y pensent pas forcément, mais en fait, quand on les recueille très jeunes, en fait, l'un des pères de l'éthologie, Conrad Lorenz, l'avait beaucoup étudié, il y a un phénomène d'empreinte, ce qui fait que quand on nourrit un très jeune oiseau, il nous considère très vite comme sa maman. Donc on peut avoir une relation très forte, très vite, avec un oiseau sauvage, et les corvidés, pour le coup, sont très facilement apprivoisables. Alors après, il faut rester prudent, parce que c'est vrai qu'après, si l'animal n'a plus peur de l'humain et qu'on le relâche, le risque c'est qu'après il cherche toujours le contact avec l'humain. Et comme on le disait, les humains n'aiment pas toujours les corbeaux. Donc
Tu l'as adopté, Heidi, ce corbeau?
Il s'est envolé au bout de 3 mois.
Bon, il se souviendra, tu sais, en écoutant l'émission, tu verras que le corbeau a une mémoire assez exceptionnelle et que s'il revenait par chez toi, il te reconnaît très très certainement, hein, Agatha Divin-Bazin.
Alors en tout cas, il y a des études, alors sur le visuel, je ne suis pas sûre que ça ait été testé, mais sur le son, on sait qu'ils peuvent, il y a une expérience notamment qui a testé ça chez le son, et des jeunes grands corbeaux pouvaient reconnaître le cri de congénère qu'ils n'avaient pas vu depuis 2 ans. Et ils étaient capables de se souvenir de si c'était un ami ou non. Le cri qu'ils faisaient en réponse était différent selon que c'était un ami ou pas.
Merci beaucoup Heidi de nous avoir appelé.
De rien.
Je te souhaite une très très belle journée. Dans quelques instants, on s'intéressera à la place du corbeau dans les fables et on s'intéressera également à son intelligence exceptionnelle. En attendant, on écoute Jeannette Porquetebas, la bande originale de Cria Cuervos de Carlos Saura. Cria Cuervos qui veut dire élève des corbeaux le fameux proverbe « élève des corbeaux, ils te crèveront les yeux ». Jeannette, pour qu'elle était basse.
Mischief, can you say hello?
Hello.
Good bird.
Grand bien vous fasse.
Hi.
Hi.
Good job.
Ali Rébéi.
Can you say hello? Hello.
Hi.
Hello.
Hi.
Sur France Inter.
11h25 et on s'intéresse ce matin aux corbeaux en compagnie du grand historien Michel Pastoureau et avec l'éthologue Agatha Liévin-Bazin. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Alors Michel Pastoureau, rappelons que notre perception du corbeau doit beaucoup au passé et notamment aux divers bestiaires, ces ouvrages de zoologie en vogue au Moyen-Âge. Les bestiaires décrivent les propriétés de grands animaux pour en tirer des enseignements moraux et religieux. Donnez-nous quelques exemples.
Oui, c'est un genre de texte qui est hérité de traditions plus anciennes, mais qui devient abondant dans le courant du XIIe siècle, puis qui se développe au XIIIe siècle, qui est très utile pour l'historien des animaux, même si on est plus du côté de la fable que de la réalité observée du côté de la nature. Dans les bestiaires, on trouve pour chaque animal un chapitre plus ou moins long, partant de son nom, l'étymologie supposée de son nom, ce que la Bible nous en dit, et puis des observations sur sa forme, son comportement, ses habitudes, ses relations avec les autres animaux, et les auteurs en tirent des conclusions à la fois théologiques, morales, et donnent des conseils comment un bon chrétien se doit se comporter, soit en imitant l'animal, soit au contraire en ne faisant pas comme lui. C'est toujours un peu construit comme cela. On trouve des textes du même genre du côté des encyclopédies dans leur partie zoologique, qui en général est toujours la partie la plus développée. Alors, pour nous, évidemment, il y a des choses surprenantes. On apprend que le cerf vit 1000 ans, que le lion dort les yeux ouverts, que le sanglier a ses cornes dans sa bouche. ça nous fait sourire, mais gardons à l'esprit que ce que nous racontent nos plus grands zoologues aujourd'hui fera sourire les grands zoologues dans 2 ou 3 siècles. Hein. Il ne peut pas en être autrement. Peut-être pas rire aux larmes, mais sourire.
Alors, le corbeau est décrit comme nécrophage. Quand il s'attaque au cadavre, il commence par les yeux. Et là, c'est un moyen pour le corbeau d'atteindre plus facilement la cervelle, siège de la pensée et de l'âme.
Oui, alors c'est une créature du diable, donc il cherche à atteindre l'âme des hommes et des femmes pour s'en emparer et les conduire en enfer, bien sûr. Et pour ce faire, il s'attaque d'abord aux yeux, c'est la voie d'accès principale. Donc le corbeau, comme beaucoup d'oiseaux d'ailleurs, a à voir avec la vue, avec l'œil. Crève les yeux, c'est l'oiseau qui crève les yeux pour accéder à la cervelle. Donc le corbeau, c'est la vue et c'est l'ouïe aussi, puisque c'est l'oiseau doté d'une certaine parole. Faut écouter le cri des corbeaux, même si pour nos oreilles modernes, il n'est pas très beau. Pour les oreilles anciennes, il semble avoir été un peu moins choquant.
Alors évoquons d'autres vices attachés au corbeau. Il est réputé glouton, vorace. Rendez-vous compte, il mange de la viande tous les jours. Il ne respecte pas le jeûne du vendredi, ni le carême.
Voilà, on trouve des notations comme cela après des descriptions ou des observations de comportement qui nous semblent raisonnables. Tout d'un coup, le texte à une notation qui nous surprend. C'est bien sûr à la lumière des savoirs de l'époque concernée qu'il faut lire ces textes et pas par rapport à nos savoirs d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs un immense problème pour l'historien que je suis et pour tous les historiens des sciences. Que faire de nos connaissances actuelles quand on est spécialiste du passé, d'un passé assez lointain? Jusqu'à quel point il faut en tenir compte, peut-être pas les convoquer dans un premier stade de l'analyse, mais comment ne pas les convoquer dans un second stade? Ce sont des problèmes très complexes.
Deux oiseaux à l'opposé du corbeau, la colombe et le cygne.
Voilà, ce sont des oiseaux blancs, donc qui font contraire avec le plumage noir des corbeaux. La colombe, c'est un bon oiseau. Elle est revenue dans l'arche, a rapporté à Noé la bonne nouvelle. Les eaux du déluge commencent à se retirer, donc elle est prise en bonne part. C'est un messager divin. Pour l'historien, c'est toujours décevant. Les créatures, les humains même, les animaux pris en bonne part, il y a moins à dire. Les textes, les sources sont toujours beaucoup plus bavardes et riches d'informations du côté du mal, du péjoratif. C'est une constante en histoire. Et le cygne, c'est un oiseau terriblement ambigu. Il est blanc et les auteurs du Moyen-Âge sont très très gênés parce que c'est un animal dont la Bible ne parle pas. Que faire d'un animal dont la Bible ne parle pas, alors que les traditions orales, surtout de l'Europe du Nord, racontent beaucoup de choses sur le cygne? C'est l'oiseau de la métamorphose, c'est l'oiseau du voyage, c'est l'oiseau qui chante avant de mourir, un chant merveilleux. Mais on dit aussi qu'il a un plumage blanc, mais sa chair est noire, donc c'est un hypocrite qui cache une couleur sous une autre couleur. C'est un oiseau fascinant à étudier dans la culture occidentale, le cygne.
Venons-en à une fable qui a popularisé le corbeau et le renard de La Fontaine, et c'est lu par Louis de Funès.
Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du corbeau. Ah, ah, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ah, À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Oh, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Michel Pastoureau sur le corbeau et le renard de La Fontaine.
Oui.
Héritier des Aupes.
C'est une fable très très ancienne, une des plus anciennes du corpus européen, la plus célèbre peut-être. Elle est très négative pour le corbeau qui a l'air stupide, il est roulé par le renard. Deux hypothèses, c'est une soupape, c'est-à-dire le corbeau est tellement vénéré et admiré par les sociétés antiques païennes qu'il faut le faire descendre de son trône, et un texte comme la fable le ridiculise pour essayer de le dégrader un peu, ou bien, comme l'expliquent deux auteurs du Moyen-Âge, en fait, il faut faire une lecture plus attentive et comparer avec d'autres textes. Le fromage était empoisonné et le corbeau le savait très bien. C'est pour ça qu'il l'a abandonné au renard. C'est une explication qu'on trouve assez souvent à la fin du Moyen-Âge, calquée sur la légende de Saint-Benoît, qui lui aussi s'apprête à manger un pain empoisonné, et un corbeau familier emporte le pain avant que le saint mange le pain.
Alors le corbeau est associé à la mort, à l'ésotérique, à la nuit. Agatha Liévin-Bazin, rappelons que le corbeau n'est pas un oiseau nocturne. Et pourtant, il est associé à la nuit.
Et oui, parce qu'il a des plumes noires. Mm-hmm. Alors après, il faut nuancer, parce que pareil, quand on regarde un corbeau frais à la lumière, en fait, les plumes sont irisées, il y a du violet, du vert, etc. Mais bon, on garde cette idée de plumage noir. Mais oui, c'est un animal tout à fait diurne. Et pour l'avoir expérimenté en vrai, quand je travaille avec des corbeaux, de nuit, s'ils sont pas à l'abri, ils se figent et ils ne bougent plus. Ils font les statues de sel, on peut les attraper avec les mains et ils restent complètement statiques, parce qu'ils peuvent pas voler de nuit, parce qu'ils voient très mal.
Michel Pastoureau, sur le corbeau associé à la nuit, à la mort, à l'ésotérique.
Voilà, donc ça c'est l'histoire symbolique qui se détourne complètement de la réalité ornithologique. Le corbeau dort la nuit, mais comme c'est une créature du diable et qu'il a un plumage noir, naturellement il est associé aux animaux du bestiaire du diable qui ne dorment pas la nuit mais se rendent au sabbat. Alors un certain nombre sont des vrais nocturnes, comme le renard, le loup et quelques autres. Le corbeau ne l'est pas, mais il fait partie du cortège, il devient nocturne pour l'histoire symbolique. Donc il y a un écart évidemment ici entre l'histoire naturelle et l'histoire culturelle.
Surely the birds appreciate all we've done for them, don't you? Beautiful cage, fresh water, neither birds to bother you, none of that blinding sunlight. Oh, now why would he do that? Most peculiar. What on earth?
They're coming! They're coming!
Alors oui, je le disais, Michel Pastoureau, il y a un film, Les oiseaux de Hitchcock, d'après une nouvelle de Daphné du Maurier, qui a contribué à la légende noire des corbeaux. Des corbeaux dans le film au comportement énigmatique et effroyable.
Oui, il n'y a pas que des corbeaux, il y a aussi des goélands et quelques autres oiseaux, mais on voit surtout les corbeaux, et le film est terrifiant. Moi, je l'ai vu, il était interdit au moins de 13 ans, j'avais juste 13 ans, j'étais très fier d'aller le voir avec un camarade. On est ressorti terrifié, la scène de la sortie de l'école avec les enfants attaqués par les oiseaux, c'est presque insoutenable. Mais je dois dire que la nouvelle de Daphné du Maurier, Birds, 1952, si je me souviens bien, et pire que le film. C'est un très très grand texte, assez court, qui terrorise le lecteur. Et comme dans le film, aucune explication n'est donnée sur l'attaque des oiseaux. C'est mieux comme ça d'ailleurs, c'est beaucoup plus fort.
Un mot sur le sens figuré du corbeau. Le corbeau, c'est un individu délateur, anonyme. On s'en souvient dans l'affaire Grégory ou dans le fameux film d'Henri-Georges Clouzot en 1943. Alors contrairement à une idée reçue, ce sens figuré ne vient pas du film Le Corbeau, hein.
Non, il est beaucoup plus ancien. Clouzot n'a rien inventé. Corbeau, pour désigner un délateur, un auteur de lettres anonymes, c'est déjà employé assez banalement à la fin du 19e siècle. Mais quand on étudie les faits de langue, on s'aperçoit que ça vient de beaucoup plus loin. Et les premières traces se trouvent dans les traités de vénerie du 14e siècle, notamment ce qui concerne la chasse au renard. Quand les veneurs ont perdu la piste du renard, ils n'ont qu'à lever les yeux vers le ciel et... comme le corbeau est là-haut qui suit la chasse de son ami le renard, ami entre guillemets, malgré lui peut-être, il dénonce l'endroit où le renard s'est enfui et les chasseurs n'ont qu'à suivre l'itinéraire du corbeau pour retrouver le renard. Il est délateur, volontairement ou involontairement.
Allez, dans quelques instants, on reviendra sur les formidables capacités cognitives du corbeau. En attendant, on retrouve Ma vie de parent de Gonaël Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous, hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Alors, Gwenaëlle Boulay, aujourd'hui, vous avez décidé de déculpabiliser tous les parents qui ont dit non à un animal à la maison.
Eh oui. Parce qu'il y a quelques années encore, figurez-vous que je recevais régulièrement des faire-part de naissance, du type une petite boule d'amour de 2,7 kg a débarqué dans nos vies. Bidule et Trucmuche sont très heureux d'accueillir leur petite sœur. J'adorais ça, les faire-part de naissance. Même que je les collais précieusement dans un cahier pour conserver ces instants de bonheur de mes amis. Mais depuis quelques mois, mon fil Facebook affiche de plus en plus de messages du type « Une petite boule de poils de 3,5 kg a débarqué dans notre vie. Bidule et Trucmuche sont tellement heureux d'accueillir Poupoune. C'est un berger irlandais à poils roux, la race la plus sympa. Smiley cœur. » Bon, vous l'aurez compris, je n'y connais rien en chien, mais vous avez saisi l'idée. Voilà, en ce moment, j'ai beaucoup d'amis qui ont décidé d'agrandir leur famille avec un animal de compagnie de type canin.
Et vous, non ?
Alors non, soyons bien clairs, parce que je ne voudrais pas me fâcher ce matin avec mes amis adorés qui ont maintenant un chien, je ne porte aucun jugement sur ce choix. Et j'admire même secrètement l'énergie et le dévouement de mes potes. Mais moi, personnellement, une fois les couches des enfants terminées, je n'ai eu aucune énergie à mettre dans une quelconque éducation à la litière. Et encore moins envie de sortir matin, midi et soir, faire le tour du quartier pour faire uriner une petite boule de poils. Sans parler des rendez-vous chez le vétérinaire à Cazé, entre la réunion parents-profs du collège et le rendez-vous d'orthodontiste. Bref, j'ai toujours trouvé qu'avoir un animal représentait une telle somme de contraintes que le jeu n'en valait pas la chandelle. Surtout quand le jeu consiste à ramasser des petites crottes dans un petit sachet ou à lancer une balle 50 fois de suite pour se la faire ramener.
Mais Gwenaëlle, c'est quand même sympa un animal dans la maison.
Oui, je sais. Les pros animaux domestiques me disent tous comme vous, Ali. Ils disent « Mais c'est tellement bien pour les enfants, ça leur fera un compagnon à qui ils peuvent confier leurs secrets. » Et c'est vrai. Et puis avec un animal, ils apprennent le sens des responsabilités, car il faut s'en occuper. C'est vrai aussi. Enfin, les deux premiers mois en général, parce qu'après, c'est pour qui les petites sorties pipi ? C'est pour Bibi. Et puis, attention, c'est là que votre culpabilité de parent va être mise à rude épreuve. On ne pourrait quand même pas leur refuser ce bonheur de grandir avec toute la tendresse d'un animal. Et là, je redis oui, c'est vrai, mais non. Et donc non, je n'ai jamais craqué. Enfin, si, en fait, on a craqué une fois, enfin deux. La première fois avec un poisson rouge, mort prématurément et qui a fini sa vie quelques semaines plus tard dans les toilettes. Et puis aussi pour l'aîné, sur un coup de tête, on a pris un lapin nain. Enfin, un nain qui a sacrément grandi au fil des semaines et à qui plus personne ne voulait couper les griffes. Donc une adorable petite boule de poils que nous devenions dingo d'entendre gratter dans sa cage toute la nuit et dont nous sommes séparés au bout d'un an. Donc bref, j'avoue que mon expérience de l'animal domestique a été très brève et que je suis pas prête de recommencer. Alors, quand de temps en temps mes enfants retentent leur chance avec un « mais t'as vu le chien de tonton, il est trop mignon !» ou espère nous avoir avec une tortue, un hamster ou un poisson rouge, je propose désormais un gentil « vous avez raison les chéris, tout ceci est trop mignon, D'ailleurs, quand vous serez grand, vous pourrez avoir autant d'animaux que vous voudrez et même ouvrir une ménagerie. Et voilà, avec ça, fini la culpabilité, vous nourrissez tout simplement leurs rêves et leur envie de grandir. Et non, non, me remerciez pas, c'est cadeau.
La chronique Ma vie de parent de Gonel Boulet à retrouver sur l'appli et le site de France Inter. Dans un instant, on s'intéresse à l'intelligence des corbeaux. On écoute en attendant Feu Chatterton.
Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du canif. C'est une musique qui plaît.
Et là, il nous écouter.
Et je n'en ai fait qu'à ma tête.
Ouais.
Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé. Au bord de la mer, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons des mauvais jours, que vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
Feu Chatterton interprété Compagnon.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi sur France Inter.
10h54 et on s'intéresse ce matin à un animal fascinant, le corbeau, en compagnie de l'historien Michel Pastoureau et avec l'éthologue Agatha Liévin-Bazin. Alors, le corbeau revient en grâce. La grande intelligence des corbeaux a été vue par les grands auteurs anciens comme Pline et Plutarque. Agatha Liévin-Bazin, que sait-on de l'intelligence des corbeaux? Expliquez-nous à grands traits ce que l'on sait.
Alors, on s'est surtout intéressé parce que les corvidés ont une capacité un peu particulière de cacher leur nourriture et de la retrouver. Et donc ça, ils le font à peu près tout. Donc ça veut dire déjà qu'ils ont une bonne mémoire, parce qu'ils sont capables de retrouver la majorité de leurs cachettes. Mais en plus, avec les grands corbeaux, entre autres, on s'est rendu compte que quand un animal cachait de la nourriture, il allait la recacher ailleurs s'il avait un de ses congénères qui l'observait faire. Ce qui sous-entendait qu'il était capable de comprendre que si on le voyait caché, il risquait de se faire piquer sa nourriture par un autre. Donc il est capable de, voilà, de prendre se mettre à la place de l'autre. Ce qui est déjà une étape assez importante. On s'est rendu compte qu'ils avaient sans doute les bases de l'empathie, quand il y a un conflit, on a observé chez les grands singes, chez les éléphants, un comportement qu'on appelle la consolation. C'est-à-dire que l'animal qui, en général, vient de se prendre une rouste, montre qu'il n'est pas très heureux. Et il y a un autre partenaire qui était extérieur au conflit, qui vient, en général, passer du temps à côté de celui qui montre qu'il n'est pas bien. Donc, ça a été un petit peu étudié. Et voilà, au niveau de la vie sociale, voilà, il y a ce fort lien au sein du couple, d'entraide. Les petits restent longtemps avec les parents, savent qu'ils peuvent apprendre de leurs parents. Et puis voilà.
Tiens, sur les capacités de mémorisation du corbeau, des chercheurs de l'université de Washington à Seattle ont testé leurs capacités de mémorisation. Ils ont revêtu des masques, ils les ont capturés, ils les ont relâchés. Ils ont relâché des corneilles d'Amérique. Oui. Ces oiseaux poussaient des cris très agressifs à chaque fois qu'ils voyaient le masque. Plus de 2 ans après leur capture, et les oiseaux qui n'avaient pas été capturés apprenaient à reconnaître et éviter le personnage masqué menaçant en observant le comportement de leurs compagnons.
Oui, et en fait, on s'est rendu compte que les parents apprenaient à leurs petits à éviter ces masques, et aussi les individus du même âge. C'est-à-dire que quand il y avait un animal capturé, les voisins qui avaient entendu la scène ou qui entendaient le voisin crier quand il y avait ce masque avaient intégré cette information et continuaient du coup à crier, à chasser. Ils font ce qu'on appelle du mobbing en anglais, donc des fois ils font des vols en piqué comme ça pour chasser un importun.
Peut-on dire que leur capacité cognitive est équivalente à celle d'un enfant de 3-4 ans?
En fait, on le compare souvent avec les grands singes, mais sur certaines manipes, en fait, des fois, ils sont meilleurs qu'eux. Il y a une expérience assez extraordinaire qui a montré qu'ils pouvaient anticiper l'avenir. Ils peuvent choisir un outil 17 heures avant d'avoir la possibilité de l'utiliser. Et les grands singes n'avaient pas été aussi bons qu'eux. Donc,
un mot de conclusion, Michel Pastoureau, au terme de cette émission.
Eh bien, je pense que l'avenir est au corbeau. C'est un oiseau qui a toujours fasciné l'être humain dans les régions où il est abondamment présent. On est parti en guerre contre lui, ça a duré presque 2000 ans. Je pense que c'est en train de se terminer et que dans les décennies qui vont venir, on va s'apercevoir que cet oiseau a des capacités qui surpassent celles de la plupart des autres animaux.
Gonelle Boulet, au terme de cette émission, vous les aimez mieux, les corbeaux ?
Ah, moi, j'ai appris plein de choses. Je ne connaissais pas grand-chose aux corbeaux.
Merci beaucoup, Michel Pastoureau. Je recommande vraiment Le Corbeau, une histoire culturelle. C'est publié aux éditions du Seuil. Merci, Agatha Liévin-Bazin. Votre blog, c'est Agatha.
C'est lenidepie.com.
Lenidepie, c'est pas votre nom.
Mon pseudo, oui,
votre pseudo, c'est Agatha McPie. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Demain, ce 11 novembre, nous serons dans la tête de la reine Elisabeth II. Comment la reine iconique des Britanniques peut nous inspirer au quotidien ? Oui, c'est possible, vous verrez.